Le Monde de demain, septembre-octobre 2022. Sept clés pour l'étude de la Bible, écrit par M. Richard Eames et interprété par Jake Boyer. L'article commence. Saviez-vous qu'il existe des clés pour l'étude personnelle de la Bible? Des clés qui peuvent déverrouiller les vérités cachées de ce livre, souvent mystérieux. Poursuivez la lecture afin de découvrir sept clés essentielles pour l'étude de la Bible. Pourquoi la Bible? Année après année, la Bible est le livre le plus vendu au monde. Il y a de fortes chances que vous en possédiez un exemplaire dans votre bibliothèque. La Bible semble être partout, mais qui comprend vraiment ce livre saint? Pouvez-vous le comprendre? Combien de gens lisent la Bible? Si vous ne la lisez pas, vous passez à côté de l'information la plus passionnante et la plus encourageante que le monde ait jamais connue. En 1455, l'imprimeur allemand Johannes Gutenberg apporta au monde la première Bible imprimée. Selon les estimations, entre 5 et 7 milliards de Bibles auraient été imprimées depuis lors. Désormais, à notre époque numérique, des centaines de millions de gens ont téléchargé une Bible sur leur smartphone ou leur ordinateur. La célèbre application Bible App de YouVersion a ainsi été téléchargée plus de 530 millions de fois et les utilisateurs ont lu ou écouté plus de 64 milliards de chapitres de la Bible en 2021. Selon un sondage IFOP mené en mars 2022, seulement la moitié de la population française estime que le principal intérêt de la lecture de la Bible est d'ordre religieux ou spirituel. Un quart des Français estime qu'il est plutôt culturel ou littéraire et 16% qu'il est historique. Désormais, seulement 27% des Français possèdent une Bible contre 42% en 2021. Autre manifestation de la prise de distance de la population, la lecture de la Bible diminue également, ne concernant aujourd'hui plus qu'un cinquième de la population. En Amérique du Nord, un sondage Gallup révélait qu'un quart des sondés considéraient la Bible comme un ancien recueil de fables, de légendes, d'histoires et de préceptes moraux compilés par l'homme. Ces personnes sont spirituellement aveuglées. La Bible est le manuel d'instruction de Dieu pour tous les êtres humains. Comme l'apôtre Paul l'a écrit au jeune évangéliste Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Souvenez-vous que lorsque Paul écrivit ceci, la seule écriture disponible en dehors de quelques lettres était l'Ancien Testament. Oui, toute écriture, l'Ancien comme le Nouveau Testament, est précieuse et essentielle. Jadis, la Bible était au centre de la civilisation occidentale. Elle était même enseignée dans les écoles publiques. Plus récemment, le sécularisme, l'évolution et le matérialisme se sont emparés des institutions pédagogiques en supprimant Dieu, la Bible et les 10 commandements. Dès lors, les normes morales et éthiques ont commencé à décliner dans tous les secteurs de la société. Ce n'est pas une coïncidence. La Bible révèle une loi spirituelle expliquant les tendances majeures actuelles et le déclin du monde occidental. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le monde occidental a semé le péché et il récoltera des conséquences désastreuses comme Paul l'écrivit au verset suivant, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Le monde occidental récolte bel et bien la corruption. C'est pour cela que les actualités doivent être analysées sous l'angle des prophéties bibliques. Le prophète Osée écrivit à ce sujet, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Pour ceux qui peuvent comprendre la Bible, elle renferme un trésor. Comment pouvons-nous récolter le trésor contenu dans ce livre? En parlant de la véritable connaissance, la Bible déclare, « Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Dans cet article, nous allons passer en revue 7 clés fondamentales pour une étude profitable de la Bible. Clé numéro 1. La Bible est toujours pertinente. Puisque ces livres les plus récents ont été écrits il y a presque 2000 ans, certains pensent que la Bible ne peut plus être pertinente de nos jours. Cette croyance est erronée. Non seulement la Bible est pertinente pour nous, de nos jours, mais ses prophéties révèlent également l'avenir de l'humanité et notre formidable destinée. La bonne nouvelle est que l'humanité ne s'autodétruira pas, car Jésus-Christ reviendra au moment le plus dangereux de l'histoire humaine pour nous sauver de nous-mêmes. L'évangile du royaume de Dieu est toujours pertinent. Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous attendons impatiemment la fin du présent siècle mauvais et le début d'une nouvelle ère, le monde à venir. La Bible est toujours pertinente et elle répond aux questions les plus fondamentales de la vie. Clé numéro 2. La Bible est un livre complet. Beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment la Bible car ils ignorent ses 39 premiers livres appelés l'Ancien Testament. Comprenez bien, lorsque Jésus citait les Écritures, il citait les Écritures hébraïques, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Dans sa phénoménale bataille spirituelle contre Satan le diable, Jésus cita Deutéronome 8, verset 3, en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette profonde vérité est essentielle pour le bonheur de chacun et pour obtenir la vie éternelle. De la même manière, lorsque Jésus nous enseigna quels sont les deux plus grands commandements, il cita l'Ancien Testament. Le premier grand commandement, nous disant d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, se trouve dans Deutéronome 6, verset 5. Le deuxième grand commandement, nous disant d'aimer notre prochain, comme nous-mêmes, se trouve dans Lévitique 19, verset 18. Ces versets de l'Ancien Testament, cités par Jésus, sont toujours des commandements de Dieu. En écrivant à Timothée, Paul parla de la foi sincère de Loïs et d'Eunice, respectivement la grand-mère et la mère de Timothée. Elles lui enseignèrent les Écritures dès son enfance. Et quelles étaient-elles? Il s'agissait des 39 premiers livres de la Bible. Le Nouveau Testament n'avait pas encore été rédigé. Vous pouvez lire cela dans 2 Timothée 3, verset 15. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Timothée était capable de comprendre le salut grâce à l'Ancien Testament et grâce à son acceptation de Jésus-Christ en tant que son sauveur. La Bible est un livre complet. Elle commence avec le livre de la Genèse pour se terminer avec celui de l'Apocalypse. D'ailleurs, Dieu met en garde quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre, de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Méfiez-vous de toute personne qui prétendrait qu'un nouveau document doit être ajouté à la Bible ou à la remplacer. Nous ne pouvons pas comprendre la vérité de Dieu, ni son plan, si nous n'étudions pas la Bible tout entière en tant que sa parole. Pour comprendre ce livre, nous devons lire à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Clé numéro 3. La Bible s'interprète elle-même. Plus d'un quart de la Bible est constituée de prophéties, et une grande partie de celles-ci sont exprimées en langage symbolique, notamment dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Comment pouvons-nous les comprendre? Prenez l'exemple du premier chapitre de l'Apocalypse. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Comment devrions-nous comprendre cette description du Messie glorifié, le Fils de l'homme, se tenant debout au milieu de sept chandeliers et tenant sept étoiles? Que représente cette symbolique? Nous n'avons pas à spéculer, car la Bible elle-même donne la signification quatre versets plus loin. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Dans la symbolique biblique, les étoiles sont des anges et les chandeliers des églises. Le vocabulaire prophétique utilise les montagnes pour désigner un royaume, un empire ou un gouvernement. Voyez la punition divine annoncée contre le grand empire babylonien. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion, sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Ici, Dieu utilisa le symbole d'une montagne pour désigner un royaume ou un empire. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, eut un songe qui lui fut expliqué par Daniel. Le roi vit une grande statue, dont les pieds furent détruits par une pierre. Cette statue représentait le royaume de Babylone, suivi de l'empire perse, puis de l'empire gréco-macédonien, et finalement de l'empire romain. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire. En été, le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel expliqua au roi Nebuchadnezzar que celui-ci était la tête d'or de la statue. Mais que représentait la pierre qui devint une grande montagne et remplit toute la terre? La Bible s'interprète elle-même. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Quelle montagne ou quel royaume dominera la terre entière? Comme beaucoup d'autres prophéties l'expliquent, il s'agit du royaume de Dieu, dirigé par le roi des rois, le Messie, Jésus lui-même. Il détruira la dernière résurgence de l'Empire romain à la fin des temps. La paix prévaudra finalement sur toute la terre, sous le gouvernement et la famille de Dieu. Si une parole symbolique n'est pas claire, cherchez ailleurs dans la Bible pour trouver sa signification. Cela nous amène au point suivant. Clé numéro 4. Étudiez tous les versets relatifs à un sujet. La Bible ne se contredit jamais. L'écrit ne peut être annulé. Les enseignants qui n'étudient pas tous les passages bibliques relatifs à un sujet finissent souvent par enseigner de fausses doctrines qui égarent leurs membres. Prenez par exemple la controverse au sujet de la loi ou la grâce. La grâce divine autorise-t-elle les chrétiens à mener une existence pécheresse, désobéissant ouvertement à leur sauveur? Non, bien entendu. Comme Jésus l'a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Après avoir fait cette déclaration, Jésus mentionna plusieurs des 10 commandements. Nous voyons donc que la formidable grâce de Dieu ne nous autorise pas à transgresser sa loi morale. Un autre passage souvent déformé se trouve dans Éphésiens 2, verset 15, où nous lisons que le Christ a détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnances. Certains pensent que cela signifie que la loi morale et les 10 commandements ne sont plus valables pour les chrétiens. Mais en accord avec ce que le Christ enseigna ailleurs dans les Écritures, ce verset parlant des ordonnances, dogma en grec, c'est-à-dire des règles humaines causant de la division entre les Juifs et les autres, nous rappelle que les chrétiens, unifiés en tant qu'Israël spirituel, vivent sous l'amplification de la loi divine par Jésus et non sous les règles charnelles qui séparaient la nation physique d'Israël des autres peuples. Voyez ce commentaire biblique à propos d'Éphésiens 2, verset 15. Matthieu 5, verset 17 et Romains 3, verset 31 enseignent que la norme morale divine exprimée dans la loi de l'Ancien Testament n'a pas été modifiée par l'avènement du Christ. En effet, le Christ a aboli certains dogmes, certaines ordonnances humaines, mais les 10 commandements sont toujours en vigueur. Une mauvaise utilisation des Écritures peut conduire à de fausses conclusions, comme l'idée erronée que le Christ aurait aboli la loi morale de Dieu, alors que la vérité révèle qu'il a obéi à cette loi, qu'il l'a magnifiée et l'a rendue plus contraignante. Ne laissez pas des prédicateurs vous influencer avec des versets bibliques soigneusement choisis et sortis de leur contexte. Étudiez tous les versets relatifs à un sujet. Clé numéro 5. Comprendre le contexte. En étudiant tous les versets relatifs à un sujet, allez un peu plus loin. Lisez l'ensemble des versets précédents et suivant le passage biblique que vous étudiez. Pourquoi? Par exemple, certains disent à tort que la conférence de Jérusalem, dans Actes 15, autorisa les non-juifs à ne pas observer les 10 commandements. Mais si vous lisez bien la décision prise par l'apôtre Jacques, la vérité est tout autre. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Lorsque les apôtres mentionnèrent spécifiquement ces quatre interdictions, autorisèrent-ils les non-juifs, les païens, à pécher d'une autre manière? Pouvaient-ils transgresser le commandement interdisant de commettre le meurtre ou celui prohibant d'adorer quelqu'un ou quelque chose à la place du vrai Dieu? Pas du tout. Les apôtres ne rejetèrent en aucun cas la loi morale de Dieu. Pour comprendre cela, nous devons lire le contexte. Quel était le problème principal? Quelques hommes, venus de Judée, enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ». Le sujet était donc la circoncision. La conférence fut organisée pour décider si les croyants non-juifs devaient être circoncis pour être sauvés. L'apôtre Paul écrivit plus tard à ses croyants « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout ». Faites attention de bien lire tous les versets entourant le passage que vous étudiez. Clé numéro 6. Prouvez toutes choses. Le monde demain travaille dur afin d'obtenir votre confiance pour sa crédibilité et son exactitude dans les enseignements bibliques. Mais une partie de cet enseignement est que vous, chers lecteurs ou chères lectrices, devez vérifier et prouver par vous-même ce que vous lisez dans les pages de cette revue. Ne prenez pas pour acquis ce que nous écrivons. Lisez et vérifiez dans la Bible, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ou comme l'exprime la version Osterwald, éprouvez toutes choses. Notez l'attitude des Béréens qui louaient dans la Bible pour leur approche positive et inquisitive dans la lecture des Écritures. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait est exact. Une façon d'examiner ou d'éprouver est de mettre en pratique les principes et les préceptes de la Bible. Jésus insista sur le fait que nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a déclaré « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Vous pouvez examiner et éprouver la Bible en pratiquant ses instructions. C'est ainsi que vous obtenez une bonne compréhension. Nous lisons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Peut-être avez-vous entendu des enseignants parler de l'apprentissage par la pratique. Ce principe s'applique également à votre vie chrétienne. Clé numéro 7. Priez pour obtenir la compréhension. La Bible met l'accent sur le fait que nous devons avoir une attitude enseignable. Elle nous dit que David, roi d'Israël, était un homme selon le cœur de Dieu. Notez l'attitude enseignable de David lorsqu'il pria pour obtenir la compréhension. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Chers lecteurs, priez pour recevoir la compréhension alors que vous lisez et que vous étudiez la Bible. Priez pour être guidé. Dieu bénit ceux qui respectent les Écritures et qui révèrent sa sainte parole. Le Dieu Tout-Puissant déclare, « Et voici à qui je regarde, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. » Vivez selon ce que vous lisez. La Bible est le livre le plus important au monde. Si vous négligez la lecture de la Bible, il est temps d'y remédier. Lisez-la quotidiennement. Si vous avez une bonne attitude, vous serez abondamment béni et votre vie sera changée. Comme Jésus l'a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Nos nations finiront-elles par comprendre que nous devons nous repentir nationalement et individuellement? Nous tournerons-nous finalement vers le Dieu de la Bible? Entendrons-nous son avertissement et obéirons-nous à ses commandements? Nous devons étudier la Bible et vivre selon les paroles qu'elle renferme. Comme Jésus nous l'a rappelé, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Obéir aux Écritures et les aimer est la seule façon d'arriver à la prospérité individuelle et nationale. La Bible est non seulement un livre pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Comme Jésus l'a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Remercions Dieu d'avoir partagé avec nous son impressionnante vérité spirituelle, ainsi que le véritable but de la vie au travers de sa parole, la Sainte Bible.